VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye. Le président américain Barack Obama a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche que les frappes de l'aviation des États-Unis contre le groupe État islamique à Siout relevaient de la sécurité nationale de l'Amérique et de ses alliés européens. Le chef de l'exécutif a souligné que dans leur combat commun contre l'État islamique, il est de l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de faire en sorte que les forces pro-gouvernementales libyennes puissent terminer le travail à Siout et que l'État islamique n'ait pas de place forte en Libye. Sur le terrain, les pro-gouvernementaux libyens continuent leur progrès dans le centre de la ville de Siout, principal bastion du groupe État islamique dans le pays. Les attaquants resserrent l'étau autour des djihadistes qui ont été la cible de frappes aériennes américaines lundi, Jacques Aristide.
Premières frappes américaines qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte, d'après Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen, aussi connu comme le GNA. Washington a confirmé ces bombardements, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, indiquant qu'il s'agissait de frappes précises contre des cibles du groupe État islamique et qu'elles allaient se poursuivre. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué pour sa part que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines a effectué des frappes en appui aux forces du gouvernement d'Union à la demande du Premier ministre libyen. Mais pour M. Sarraj, ces frappes interviennent dans un cadre limité dans le temps et elles ne dépasseront pas Sirte et sa banlieue. Les forces pro-GNA tentent de reprendre la totalité de la ville de Sirte, dans laquelle elles sont entrées le 9 juin et où elles assiègent depuis les djihadistes. Elles sont ralenties par la forte résistance des djihadistes qui mènent à des contre-attaques, notamment en perpétrant des attentats suicides à la voiture piégée.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Nigeria, l'armée nigériane a déclaré aujourd'hui avoir déjoué un projet d'attaque des djihadistes de Boko Haram près de Maiduguri, chef-lieu de l'État de Borno et berceau du groupe islamiste dans le nord-est du pays. 5 djihadistes ont été tués. Rappelons que l'insurrection de Boko Haram a fait quelque 20 000 morts et 2 600 000 déplacés depuis 2009. Au Nigeria toujours, le gouvernement nigérian a repris le paiement des allocations dues à d'anciens rebelles du Delta du Niger. Les Vengeurs du Delta du Niger, un nouveau groupe rebelle, par contre, ne sont pas concernés par cet accord conclu en 2009 avec le MEND. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a inauguré ce mardi à Niamey le plus grand hôpital du pays, construit gracieusement par la Chine, très présente économiquement sur place pour un coût de plus de 45 milliards de francs CFA, soit 68 millions d'euros. D'une capacité de 500 lits, cet hôpital de référence, situé dans la périphérie nord de la capitale, est le plus moderne du pays. Conflit au Soudan du Sud, environ 60 000 personnes ont cherché refuge à l'étranger depuis la reprise des combats entre les factions rivales dans le pays. Les précisions de Nathalie Barge.
Le mois dernier, environ 52 000 personnes ont fui en Ouganda, 7 000 au Soudan et 1 000 au Kenya, a indiqué le HCR. En tout, près de 900 000 Sud-Soudanais ont quitté leur pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, selon l'agence onusienne. Les personnes fuyant la violence la plus récente dans la capitale Djouba ont dit avoir été refoulées par des groupes armés sur la route de l'Ouganda. L'accord de paix conclu il y a un an a été menacé à plusieurs reprises par les combats. Au plan politique, c'est toujours l'incertitude. Lama Coll, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a annoncé hier sa démission, estimant qu'il n'y avait plus d'accord de paix à appliquer à Djouba. Il accuse le président Salva Kiir d'avoir fait fuir son ancien vice-président Riek Machar pour lui trouver un remplaçant.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, la délégation de l'Union européenne a exhorté aujourd'hui les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national en vue d'élections apaisées. Le point avec Claire Morin-Gibault.
C'est par le biais d'un communiqué que l'Union européenne a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif avec, selon leurs termes, toutes les autres parties concernées. Un dialogue qui doit démarrer, selon les Européens, le plus rapidement possible. Samedi dernier, le facilitateur Edem Kodjo avait reporté sine die le démarrage des travaux préparatoires au dialogue national. Le lendemain dimanche, l'opposant Étienne Tshisekedi avait accepté le principe du dialogue national tout en récusant Edem Kodjo, l'accusant de faire le jeu de Joseph Kabila. Fin novembre, le chef de l'État au pouvoir depuis 2001 avait convoqué un dialogue national réunissant majorité, opposition et société civile en vue d'élections apaisées. Dimanche, la commission électorale a lancé des opérations d'enrôlement des électeurs qui devraient se dérouler sur 11 mois, selon son président Corneille Nanga, un délai qui rend quasi impossible la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors que le mandat du président Kabila se termine le 19 décembre.
La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a commencé l'inscription sur les listes électorales à Gbadolité, dans la nouvelle province du Nord Oubangui. Un processus qui devrait s'étendre progressivement aux 25 autres provinces, puis aux Congolais de l'étranger. Suivons le reportage à Gbadolité de Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opération lancée dans la ville de Gbadolité a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire du Nord Oubangui. Les premiers enrôlés de la première journée n'ont éprouvé aucune difficulté majeure. Un motif de satisfaction pour Désiré Ogbala, l'un des cinq premiers candidats à recevoir sa nouvelle carte d'électeur.
Nous avons constaté dans le centre qu'il y a eu quelques imperfections dues au maniement du matériel. Cela est dû à la formation accélérée. Les opérateurs de saisie et les membres des MC n'ont pas pu maîtriser. Mais nous savons que les jeunes gens qui ont ici maîtrisent l'informatique. Mais tout ce que nous savons, que les matériels sont performants et nous croyons qu'avec le temps, les choses iront pour le mieux.
Le président de la Commission africaine des supervisions électorales qui a observé cette opération en appelle à l'implication des acteurs politiques pour assurer la réussite de l'enregistrement des électeurs. Sima Rongongo.
Nous avons réellement observé la première carte reçue par la première personne ici à Gbadolité, mais nous avons observé également que malgré tout ça, la CENI est confronté à beaucoup de problèmes. Et nous avons remarqué que la population n'était pas sensibilisée. Nous demandons aux politiciens de s'impliquer à l'opération.
Appel entendu par le groupe des parlementaires présents sur les lieux. Emmanuel Kokate est député national élu de Yakoma.
Nous sommes là dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous devons descendre dans nos fiefs électoraux respectifs pour pouvoir mobiliser la population afin qu'ensemble ils viennent participer à ce processus qui va garantir la démocratie dans notre pays.
De retour de Gbadolité, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les Sud-Africains votent demain aux élections municipales. Le scrutin s'annonce ardu pour le parti au pouvoir, l'ANC, qui a facilement remporté jusqu'à présent toutes les élections locales et nationales depuis la fin de l'apartheid en 1994. Mais la formation du président Jacob Zuma est affaiblie politiquement par le contexte économique difficile et les scandales qui affectent le chef de l'État. La guerre en Syrie maintenant, les avions russes soutenant les forces du régime syrien ont freiné aujourd'hui l'offensive des rebelles qui cherchent à briser le siège imposé à leur quartier dans Alep, la métropole du Nord. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive lancée dimanche est la plus importante menée par les rebelles depuis celle de 2012. Les précisions de Tatiana Mosso.
Alep est divisé entre quartier ouest, aux mains du régime, et quartier est, contrôlé par les rebelles et totalement assiégé par l'armée depuis le 17 juillet. Dans cette bataille, le régime est aidé par l'aviation russe et au sol par des combattants iraniens et du Hezbollah libanais. Les rebelles sont soutenus par le groupe djihadiste Front Fateh al-Sham, ex-Front al-Nosra, qui a coupé ses liens avec Al-Qaïda. Selon une source syrienne, quelques 5000 combattants pro-régime sont engagés dans la bataille. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une trentaine de civils ont été tués lundi par des tirs rebelles sur la zone gouvernementale d'Alep. Ailleurs, dans la province d'Alep, un raid aérien a visé la localité rebelle d'Atarabé, causant la mort de 6 personnes et en blessant 15 autres. Le secrétaire d'État John Kerry a exhorté les protagonistes à Alep à faire preuve de retenue. Par ailleurs, les médias officiels ont rapporté que des dizaines de familles étaient sorties des quartiers rebelles à travers des couloirs humanitaires ouverts depuis jeudi par le régime. Le week-end dernier, les autorités syriennes avaient annoncé la sortie de plusieurs familles et la reddition de quelques rebelles, mais des habitants et des insurgés avaient dénoncé des mensonges.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.